France Inter. L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo. Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques, Guillaume Roux à la console. C'était en 1970, Jacques Duhamel, alors ministre aux Affaires culturelles, évoquait ce qu'allait être le centre Pompidou et puis quelques réactions une fois le musée sorti de terre, en 1977 cette fois.
Ce sera quoi exactement, monsieur le ministre, ce centre Pompidou?
Ben, ce sera plus ça, n'est-ce pas? Ce que nous voyons sous les yeux, c'est un mélange de garage, de parking, dans un décor à la Simenon. Ce sera demain le centre Beaubourg, c'est-à-dire le lieu où le passé par le livre et le présent par les expositions, la peinture, les concerts se rencontreront.
Moi, je crois que c'est l'erreur monumentale du siècle.
C'est trop compliqué pour moi.
C'est une boîte, une prison. On fera des expériences de, comme sur des lapins ou comme dans les hôpitaux psychiatriques.
Je trouve que c'est horrible, que ça ne ressemble à rien. On dirait une carcasse.
Pour moi, ça tue le quartier, c'est tout.
C'est moderne. Je n'aime pas cela là. Peut-être à la Défense, mais pas ici.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
S'il est bien un sujet de controverse, c'est l'architecture. Elle est partout, elle est utile et nécessaire. Elle nous transporte, nous suffoque de beauté ou d'indignation. Bref, l'architecture est un drôle d'objet. Pour en parler, Yves Michaud, auteur d'un essai paru chez Folio intitulé « Qu'est-ce que l'architecture ?» et Bérénice Levé qui a publié un livre passionnant sur Hannah Arendt, « Penser ce qui nous arrive avec Hannah Arendt » publié aux éditions de l'Observatoire. Alors, vous êtes peut-être en train de vous dire « Que vient faire là Hannah Arendt ?» Eh bien, vous aurez des surprises car elle s'est passionnée pour l'architecture. Yves Michaud, l'architecture, un drôle d'objet, une chose qui n'est pas une chose, qui est à la fois matérielle et immatérielle. C'est en tout cas ce que vous écrivez dans votre essai.
Bah évidemment, parce que d'abord, beaucoup de l'architecture aujourd'hui, on la voit en photographie. Hein, je veux dire, le Louvre d'Abu Dhabi, tout le monde n'y est pas allé. Hein. Ensuite, c'est des plans, c'est un concept, c'est un projet. Et là, c'était drôle d'entendre Duhamel définir le programme d'une manière extrêmement floue. Mais en fait, c'était un début de programme. Ça commence toujours par une chose comme ça, par dire on va faire quelque chose. Mmh. Bon, c'est plus facile quand on va faire une prison que quand on fait un centre d'art. Mais aujourd'hui, il y a des endroits où c'est plus facile quand on dit on va faire un aéroport. Mais il y a des endroits où on ne sait plus comment faire. Par exemple, une grande tour aujourd'hui dans laquelle on va mettre de l'hôtellerie, des bureaux, des lieux de réception, la programmation devient très difficile. Donc ça, effectivement, ça a beaucoup d'aspects très différents. C'est aussi de l'art, hein, je veux dire. C'est de la technique, c'est de la technologie, c'est des matériaux, avec des matériaux qui ont beaucoup changé. Et donc, ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est au fond identifier quels sont les concepts clés pour appréhender un objet architectural, quel qu'il soit, que ce soit un immeuble banal, hein, je veux dire une chalandonnette, une petite villa de 10 paires banlieues, ou que ce soit le Louvre, le Centre Pompidou, parce qu'au fond, ils sont tous quelque part, ils sont tous soumis au temps, ils sont tous soumis à des impératifs de matériaux, ils sont tous soumis aux vicissitudes d'un projet, d'un programme et d'un financement. Hein, attention, ça c'est quelque chose.
Ah bon?
Et aujourd'hui, c'est sidérant, je veux dire, les enjeux financiers.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est justement que vous mettez en perspective, d'abord les perspectives historiques, et puis on voit bien qu'on va des concepts théoriques jusqu'à l'appréhension pratique que nous, public, nous avons des choses. Bérénice Levé, la philosophe Hannah Arendt, la philosophie plutôt d'Hannah Arendt, est au fondement, dites-vous, de votre intérêt pour l'architecture. Alors, je voudrais bien que vous nous expliquiez pourquoi. Parce que ce n'est pas si évident.
Je ne sais pas si elle est la seule. Elle n'est peut-être pas au fondement, parce que je crois que la première chose qui m'a fascinée dans l'architecture, ce sont les ponts. Mais précisément parce que le pont, et notamment au travers des photos de Bérénice Abbott, représente cet équilibre parfait entre des verticales, des horizontales. Et c'est là qu'on retrouve la pensée d'Arendt. Bon, il se trouve qu'Arendt s'est intéressé à l'architecture.
Au monument, parce que, voilà, aux cathédrales. Alors,
dans ses écrits, oui, parce que la définition pour elle de l'œuvre d'art est précisément ce qui résiste au temps. Parce que, et c'est là que, même si elle ne l'a pas théorisé, mais il y a une grande cohérence à ce qu'elle se soit intéressée à l'architecture, simplement sur le plan anecdotique, mais il se trouve que son mari, Günther Anders, était Günther Anders était le premier, Heinrich Blücher, son deuxième mari, était son second mari, il n'y en a pas eu de troisième, était professeur d'histoire de l'art et avait une grande un grand intérêt pour l'architecture, et c'est lui qui a su lui apprendre à regarder et à prendre en considération. Mais il se trouve que philosophiquement, il y a une grande cohérence, parce que le grand thème arendtien, et donc qui est au cœur de mon pensée, ce qui nous arrive avec Hannah Arendt, c'est que pour elle, l'impasse presque de la modernité est de nous abandonner à l'écoulement sans qu'il n'y ait plus rien de continu, de stable. Nous avons passé par pertes et profits, ou les modernes ont passé par pertes et profits, le besoin qu'a l'être humain de stabilité, de continuité. Et nous nous sommes presque enivrés par le flux, et si elle voyait le monde dans lequel nous vivons. Si vous me le permettez, je vous cite juste une phrase d'Arendt qui est pour moi la plus belle et qui finalement est presque anticipe sur ce que Zygmunt Bauman va conceptualiser sous la notion de société liquide. Mais elle écrit magnifiquement « Le monde devient inhumain, impropre aux besoins humains, qui sont besoins de mortels, lorsqu'il est emporté dans un mouvement où ne subsiste aucune espèce de permanence. » Or, l'architecture, c'est précisément ce qui triomphe aussi du caractère éphémère de notre séjour terrestre. Donc, je ne veux pas être trop longue, mais voilà. Alors, effectivement, la cathédrale, pour elle, est le monument qui est édifié à la gloire de Dieu, et donc, non pas pour les hommes du présent, mais véritablement pour demeurer par-delà les siècles.
L'architecture devrait être œuvre de pérenne. Enfin, il y a une forme de pérennité dans l'architecture.
C'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Bérénice Levay, parce que bon, le premier chapitre de mon livre, c'est sur le temps. Et l'architecture, elle est forcément dans le temps. Elle met du temps d'abord à se construire.
Un temps très long.
Je regardais aujourd'hui, j'en doutais, la tour Triangle, dont la construction a commencé en 2022. Et qui n'est pas fini, de Herzog et de Meuron, le long du boulevard Victor. L'idée est venue en 2008 de Delanoë. Alors, il y a le temps des procès, des difficultés, ensuite il y a le temps du programme, effectivement, vous voyez un peu le temps. Donc, l'architecture, elle est dans le temps. Et puis, elle s'use. Je veux dire, là, je publie un petit livre sur l'école des Beaux-Arts. Je l'ai dirigé pendant 7 ans. J'ai bien vu comment ces bâtiments qui ont été construits entre 1828 et 1860 sont usés par l'usage, comme le Centre Pompidou d'ailleurs. Si le Centre Pompidou troisième fermeture.
Et oui, mais est-ce que c'est pas précisément la faiblesse aussi de l'architecture propre au XXe siècle?
Oui, mais
alors que siècles passés ont su nous léguer des monuments
c'est là vous idéalisez beaucoup, parce que il n'y a pas que l'usure des utilisateurs, il y a aussi l'usure du temps,
du matériel,
l'usure du climat, l'usure des catastrophes. Je veux dire, vous savez, par exemple, les pyramides qui doivent pour vous être le comble de la pérennité.
Non, pour moi, c'est
très
la cathédrale, mais.
Pendant longtemps, les architectes ont dit on ne sait pas de l'architecture. c'est des monuments, personne ne savait à quoi ça servait, hein, parce qu'on a commencé à aller en Égypte qu'à la fin du XVIIIe siècle, tellement c'était périlleux. Hein, donc on les connaissait par oui dire, en quelque sorte. Eh bien, c'était des objets improbables, et l'admiration qu'avaient les architectes pour les pyramides, c'était que c'est plus difficile à défaire qu'à faire.
Oui, mais malgré tout, pourquoi, par exemple, Notre-Dame suscite quand même cette ferveur ? C'est aussi parce que nous autres hommes du 21e siècle sommes rattachés à quelque chose qui a commencé au 12e siècle. Donc,
je suis bien d'accord, mais on doit le réactiver tout le temps. De même qu'on doit faire de la maintenance, de même qu'on doit faire de la restauration, on doit toujours réactiver ce passé.
L'architecte André Vojanski.
Une chose que je crois de plus en plus, c'est que nous avons un véritable besoin d'être enveloppés. Et je crois que précisément, c'est une des grandes missions, j'aurais certains jours envie de dire que c'est la grande mission de l'architecture, c'est d'envelopper les hommes, de les envelopper à leur échelle. Il faut que nous ayons autour de nous un toit et des murs qui nous enveloppent, qui soient faits pour nous. Et cette enveloppe, elle a une échelle qui est le logis familial, elle a une autre échelle qui est le groupe collectif dans lequel nous vivons, elle a une autre échelle qui est le quartier, elle a une autre échelle qui est la ville, elle a même encore une autre échelle qui est la région, même le pays, et peut-être un jour une organisation commune de différents pays. Tout ça, ce sont des grandes enveloppes qui s'enferment les unes dans les autres, qui sont toujours faites par l'architecte et par l'urbaniste, et qui doivent redonner le sens à notre époque du caractère humain, mais de notre époque, et par rapport aux techniques et par rapport aux grandes fonctions économiques, sociologiques de notre époque. Une ville, en réalité, c'est une grande création continue. Et comme toute création, pour être réussie, eh bien, la ville, ça doit être une grande œuvre d'art.
Je suis sûre que ça vous plaît, ça, Bérénice Lavey.
Vous savez, en fait, pourquoi aussi Arendt est si sensible à ce qui demeure ? C'est son expérience de l'exil. Elle a compris, éprouvé par l'obligation de quitter l'Allemagne et ce qu'elle appelle la familiarité d'un foyer. Donc elle va devoir d'abord s'installer à Paris, où elle va passer de nombreuses années, où vraiment elle va se plaire. Mais elle prenait pour métaphore, finalement, des murs protecteurs. Et là, on retrouve exactement, enfin, en écho à ce que vous venez de diffuser, c'est que elle prenait l'exemple de la bibliothèque, qui est finalement ce mobilier qui a une vertu protectrice et effectivement une enveloppe, en tout cas quelque chose qui est un abri et par-delà la vicissitude de l'histoire. Et ça, c'est beau, cette
Yves
idée.
Yves Michaud, vous êtes d'accord avec cette la ville d'abord qui est une œuvre d'art. Alors là, on parle de l'architecture pour les citadins et ce besoin justement d'être.
Oui, mais alors ce que disait Vojanski, excusez-moi,
c'est. Ça vous plaît pas ?
Non, c'est la base de tout ce qui est dit sur l'architecture. Depuis toujours. De Vitruve à Saint-Père, de Saint-Père à Vojanski, tout le monde dit que le point de départ, c'est que l'architecture, c'est un toit, c'est un foyer. Et c'est pas forcément, et c'est pas la ville, justement. C'est d'abord un toit protecteur contre les éléments, protecteur contre les animaux, protecteur contre les autres hommes. Et ça, c'est une constante, si vous voulez. Et donc, c'est l'importance de la maison et l'importance du foyer. Le modèle de toute architecture, c'est le foyer. Alors, c'est soit la cabane primitive, soit le foyer avec ses murs tressés et puis un foyer de céramique autour duquel on se réchauffe. Mais c'est ça. Après, on étend. Effectivement, beaucoup d'architectes étendent. Après, c'est le quartier, après, c'est la ville, et après, c'est. Et pourquoi pas le monde entier. Mais le problème, c'est que justement, les extensions, elles deviennent très rapidement problématiques.
Bah oui.
Et ce qu'on voit, c'est d'ailleurs le sujet, un des deux thèmes de mon dernier chapitre, c'est que la ville, il arrive un moment où elle nous échappe complètement.
Et puis il y a
pas
autre
forcément
chose.
Aujourd'hui, d'ailleurs, au 19e siècle.
Mais il y a autre chose aussi. On peut se demander parfois si les architectes pensent vraiment à l'usage qui sera fait de leur,
de leur œuvre, aux fonctions de leur œuvre. Quand on peut penser à ce projet fou de Le Corbusier, Plan voisin pour Paris, qui visait donc à détruire complètement le centre de Paris pour faire une ville à la verticale avec des gratte-ciels et des bureaux en verre, par exemple. Est-ce que ça, c'est pas une folie totale d'un artiste démiurge un peu ?
Ah ben oui, mais le grand architecte, il est toujours un démiurge. Et il se prend pour un démiurge. Ça vaut de Jean Nouvel, ça vaut de tout le monde aujourd'hui, de Foster, c'est toujours.
Non, mais quand c'est au niveau du.
Ça a toujours été le cas, parce que c'est la grande notion que. Bon, moi, bien sûr, je n'ai pas du tout les compétences en architecture d'Yves Michaud, mais il y a de très belles pages chez Julien Gracq sur le fait qu'à partir des années 60-70, qui heurte le géographe qu'il est, c'est qu'on ne tient plus aucun compte de ce qu'il appelle, hein, et Fumaroli aura de très belles considérations, sur, qui était le génie français, la convention. C'est-à-dire que précisément, on prenait en considération le lieu. C'est pourquoi, dans l'extrait premier que vous avez diffusé concernant Beaubourg, c'est ce qui heurte les gens. Mais... C'est que finalement, Beaubourg arrive et ne tient plus compte du lieu. Bon, pour ma part, je suis pareillement choquée par la pyramide de Peille. Et je trouve que c'est une verrue dans le.
Alors, là, il ne sera pas d'accord, notre émission.
Non, là, je crains. Qu'on soit souvent pas d'accord.
Mais c'est bien, souvent, attendez, souvent vous êtes là pour en parler.
Qu'on soit souvent pas d'accord, parce que de toute manière, la ville, elle croît, les matériaux, démographiquement, elle croît. Ce qui change aussi, par exemple, c'est les relations politiques, ce qui change, c'est les relations internationales. Par exemple, les problèmes de défense et de fortification. Il y a Viollet-le-Duc a écrit des choses fantastiques avant et après la guerre de 1870 sur la nécessité de l'évolution de la ville et des techniques de défense de la ville. Donc vous avez déjà des facteurs de changement considérables de la ville.
La forme d'une ville change plus vite que le cœur d'un mortel. Vous citez Baudelaire.
Mais je cite beaucoup Julien Gracq, mais si vous voulez, c'est juste une vision de la ville, et c'est une vision de la ville qui correspond en gros à la réaction qu'il y a eu dans les années 1960-70 avec les situationnistes, etc. Mais la ville, elle explose, parce qu'au même moment, vous avez Los Angeles, et Los Angeles, c'est aussi une ville.
Oui, mais d'accord, mais alors je vais rester très, très dans l'esprit français, qui est mon grand thème dans mon précédent essai, mais vous êtes d'accord, je crois, nous sommes de grands marcheurs et nous traversons beaucoup Paris. Là, moi, pour venir à la Maison de la Radio, j'ai traversé le quartier Beaugrenelle, nous pourrions être n'importe où. C'est effrayant. Il n'y a rien de singulier. Il n'y a plus rien, justement, de la.
Je suis bien d'accord avec vous je peux aussi être attaché à des choses traditionnelles et très
et locales, sensible.
Et régionales. Mais bien sûr. Mais en même temps, moi, j'essaye de prendre en considération le phénomène de l'architecture en général. Quand un théoricien de l'architecture du XVIIIe siècle dit. Les Grecs n'avaient pas de carrosse, nous si. Et ben voilà. Et ensuite, on a fait une ville pour l'automobile. Maintenant, on la change pour le vélo. Prenez le cas de Los Angeles. Vous pouvez pas marcher à Los Angeles. Et un des livres les meilleurs sur Los Angeles, celui de Rainer Banham, c'est un grand historien très engagé, en plus moderniste, de l'architecture. Rainer Banham, en Angleterre, il se déplaçait à vélo. Et il a passé son permis pour faire son livre sur Los Angeles. Parce que Los Angeles, c'est une ville pour l'automobile. Et ça existe comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, moi j'ai quand même vécu à Sao Paulo, j'ai vécu dans quelques villes tentaculaires, je peux vous dire que je n'ai jamais pu identifier le plan des déplacements dans Sao Paulo.
Et Brasilia.
Alors Brasilia, j'y suis hélas pas allé, mais...
Brasilia, vous du courage.
Mais Brasilia, c'est comme Chandigarh, c'est comme ces constructions, on peut, avec un plan, on peut quand même s'y retrouver, tandis que la prolifération des quartiers dans une ville comme Sao Paulo fait que vous ne pouvez pas la saisir.
Précisément, c'est pourquoi on pouvait être attaché à la forme française de la ville, parce qu'il y avait aussi un classicisme, une ordonnance. Et moi, ce qui me heurte, c'est ça, c'est que finalement, on perd tout cachet spécifique.
Mais... Qu'est-ce que l'architecture ? C'est le titre de votre essai. Yves Michaud, je vous coupe le sifflet. Et Bérénice Levé, pensez ce qui nous arrive avec Anna Arendt. C'est dans l'heure philo. New York USA, c'est Serge Gainsbourg.
du New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut New York, New York USA. Empire State Building,
oh, c'est haut.
Rockefeller Center,
oh, c'est haut.
International Building,
oh, c'est haut.
Waldorf Astoria,
oh, c'est haut.
Pan American Building,
oh, c'est haut.
Bank of Manhattan,
oh, c'est haut. Citibank.
Comment évoquer l'espace? C'est ce que nous en faisons sans écouter les propos de Gaston Bachelard.
J'ai fait, si vous voulez, mon enquête pour montrer que les espaces, enfin la poétique de l'espace, est une poétique de l'habitation heureuse. J'ai commencé par montrer que la maison, la chambre, la maison c'est trop grand, c'est pas... la chambre était, si vous voulez, quasiment un corps, presque un corps maternel qui nous reçoit la nuit. Et alors par conséquent, j'ai regardé, si vous voulez, enfin la poésie du repos. En sous-titre, j'aurais dû mettre, n'est-ce pas, l'espace heureux, c'est l'espace où l'on se repose. Alors, c'est par la maison que j'ai commencé. Puis la maison, je l'ai, j'ai dit toutes ses puissances. Il y a des pages sur la cave et sur le grenier. J'ai montré que l'homme qui va au grenier est un homme plus solitaire. Un enfant va bouder dans le grenier. Les femmes ne vont pas à la cave dans mon pays. Voilà la maison qui est caractérisée d'une façon extrêmement sensible.
On a envie de vivre dans la maison de Bachelard. Yves Michaud, de quoi les philosophes se préoccupent-ils quand ils parlent d'architecture? C'est plus les effets esthétiques, c'est les émotions, sont les symboles?
Bah écoutez, d'abord, ils en parlent peu.
Oui.
Il n'y a pas beaucoup de livres.
Non, alors, il y a Hannah Arendt.
Effectivement, Bachelard a été très, très relu.
Heidegger aussi, vous parlez de
alors,
la nostalgie.
Alors oui, Bachelard et Heidegger, voilà. Il y a eu un retour, disons, contre le formalisme, si vous voulez, et le minimalisme, et le brutalisme aussi. Tout béton des années de l'après-guerre.
Vous avez vu le film?
Voilà. Non, j'ai pas vu le film, mais je connais bien l'architecture brutaliste. Contre cette architecture inhumaine, dirait Bérénice, contre cette architecture inhumaine, il y a eu un retour, une redécouverte des philosophes, en même temps que les situationnistes redécouvraient la ville, la dérive situationniste. Et donc, les deux auteurs, qui d'ailleurs alimentent des contributions à tous les colloques de la Terre et du Ciel, c'est Heidegger aujourd'hui et Bachelard. Mais je prends le cas de Bachelard, et c'était très bien ce retour à Bachelard. Heidegger, je veux dire, la clairière, moi, comme je dis, je veux dire, la clairière, j'aimerais bien savoir si elle sentait pas un petit peu la fumée des camps de concentration. Mais n'en parlons pas comme ça. Soyons sérieux. Avec Heidegger, parce que je veux dire, c'est bien joli d'être dans la clairière, mais il faut voir ce qu'il y a à côté. Hein. Bon, Je suis en train de perdre la fille à cause de...
Vous voulez revenir à Bachelard.
La maison de Bachelard. La maison de Bachelard, justement, elle présuppose un certain type de paysage, un certain type de matériaux, un certain type de village aussi. Par exemple, moi je connais, puisque je vais souvent à Ibiza, il n'y a pas de cave à Ibiza, puisque c'est du rocher. Et on ne peut pas faire une cave. Et il n'y a pas de vin non plus. On le garde dans des bouteilles en plastique, le vin, parce qu'il y a un vin local, mais qui ne se garde pas. De la même manière, il n'y a pas de grenier. Tout simplement parce que, étant donné que la pauvreté de la construction traditionnelle et qu'on avait, on utilise des savines, des bois, une sorte de hêtres pour les monuments, on peut pas faire des surfaces très, on peut pas surimposer des surfaces. On peut pas non plus, je veux dire, comme les murs, on n'a pas de ciment, les murs tiennent uniquement par leur largeur. C'est des murs en général d'un mètre de large, donc on peut pas monter. Je veux dire. Donc il y a pas. Vous voyez, la maison, elle change tout le temps. Je veux dire.
Bien sûr.
Et alors à ce moment-là, on aura une autre poétique. Je suis tout à fait d'accord. Une autre poétique. Oui. Mais moi, ce que dans mon travail, ce que j'essaye de faire, c'est l'approche générale, si vous voulez, du concept de maison. Par exemple, aujourd'hui, par exemple, je veux dire, même ce que dit Bachelard sur le repos. Aujourd'hui, par exemple, la configuration des appartements, elle est totalement remise en cause. Avant, la chambre, la salle à manger, le salon, les enfants, etc. Et bien, avec les familles recomposées.
Bien sûr.
Et ça pose un problème considérable aux architectes. C'est-à-dire de faire des sortes de grappes d'habitation, de grappes de chambres où on se retrouve entre éléments déconnectés, puis ils font partie de la famille.
Non,
voilà, c'est ça que je dis, moi.
Ce qu'il y a... alors, vraiment, je recommande aux auditeurs de lire. Pour moi, c'est un des plus beaux textes de Bachelard, la poésie de l'espace.
Bien sûr, moi
mais
aussi.
En plus, il y a quelque chose de tellurique, de tellement incarné. Il y a de la chaleur. Il y a des pages mais admirables sur l'armoire et les tiroirs. Parce que je rêvais de faire un livre justement où, parce qu'il se dispute entre Bergson et Bachelard sur le symbolique, la symbolique du tiroir, puisque Bergson lui dénonce les philosophes qui veulent faire entrer les choses dans un tiroir et donc s'en débarrasser, et au contraire Bachelard qui lui dit un tiroir, c'est enfin, exactement la poétique de Baudelaire. Donc là on a, et vous avez raison, c'est que la maison telle qu'elle est décrite par Bachelard, c'est pas les appartements froids d'aujourd'hui où il y a quelque chose, c'est une maison de campagne, quoi. Il y a de l'odeur, voilà, il y a des parfums, c'est saturé de sensualité,
d'humanité.
Ah oui, oui, et puis vraiment de sens, de plaisir des sens où tous les sens sont sollicités.
Et c'est la maison, probablement aussi la maison de Bachelard, dont on se souviendra toute sa vie. Je ne suis pas sûre qu'on se souvienne forcément des appartements. Voilà. Qui ont...
Ah, écoutez, moi j'ai un merveilleux souvenir, j'ai fait c'était une expérience.
Oui.
Un jour où je devais faire une conférence à Marseille, j'ai demandé qu'on me réserve la chambre dans l'hôtel de la cité radieuse.
Ouais.
Et c'est assez spartiate. Hein. Mais ça restera un de mes grands souvenirs.
Ah, bah, top,
et la cité radieuse est une merveille architecturale, une monumentalité exceptionnelle, une économie des dispositions et des services exceptionnelle. Alors, quand c'est sorti, c'était la maison du Fada. Hein. Maintenant, les gens veulent plus y quitter, absolument plus y quitter. Et j'ai connu des gens qui ont passé leur enfance dans l'unité d'habitation et qui indiquent qu'elles ont eu une enfance merveilleuse cause de la configuration. Alors, c'est une réussite exceptionnelle de
oui, parce que nous, on se souvient justement des maisons de campagne quand même qu'on a fréquenté enfant, et c'est là où... C'est pour ça que je vous dis, il y a quand même une expérience olfactive ou toute la littérature de Colette.
Non, mais moi, je suis empiriste, si vous voulez. Ce que je vous dis, c'est que vos maisons de campagne de l'enfance sont remplacées aujourd'hui par des Airbnb absolument répugnants.
Oui, mais je me dis que ça ne sera pas la même humanité.
Ça ne sera sûrement pas la même humanité. C'est déjà pas la même humanité.
Il y a une question que je voulais vous poser aussi, Michaud, parce que ça, vous le mettez vraiment en lumière dans votre essai, c'est que, en fait, l'architecture, c'est une discipline terriblement contrainte, des contraintes juridiques, symboliques, et aujourd'hui, et peut-être qu'on fait fi de ces contraintes aujourd'hui, où on peut aussi tout faire. C'est-à-dire, si on a envie de faire une station de ski dans le désert, on peut la faire.
Alors,
sur le plan théorique.
Je dirais que c'est ce que j'appelle l'atopie, pas l'utopie, l'atopie, le fait qu'on peut faire n'importe quoi, n'importe où, à condition d'avoir l'argent et à condition d'avoir les autorisations. Mais en règle générale, un projet architectural, c'est pour ça aussi que les grands projets aujourd'hui se font quand même dans des pays qui, très autoritaires. Parce que si les aménagements de Dubaï ou d'Abu Dhabi devaient se faire chez nous, ça ne serait pas possible. Et les architectes que je connais, y compris des architectes qui ont contribué à la construction de Dubaï ou d'Abu Dhabi, me disent qu'aujourd'hui, le tissu des normes, aussi bien les normes de sécurité que les normes environnementales, que les normes politiques, le droit sur le sol, les normes écologiques, le tissu des normes est tel que pratiquement l'architecte ne peut rien faire. Ce qu'il peut faire, c'est des enveloppes pour des structures. Et c'est ce qu'on voit, en fait. On voit des enveloppes pour des structures. Un des meilleurs exemples d'enveloppes pour des structures, c'est la fondation LVMH, Guéry, une superbe enveloppe pour une structure qui, lorsqu'on enlève l'enveloppe, est juste de briques et de broc, une sorte de sculpture de Marc Dissouvero. Et en plus, quand vous regardez l'usage de l'intérieur, il est extrêmement mauvais. Les escalators sont mal placés. Des toilettes, il n'y en a quasiment pas parce qu'ils les ont en partie oubliées et qu'il n'y a pas les colonnes qu'il fallait.
C'est embêtant.
Oh, ben ça, c'est un des gros problèmes. Mais depuis toujours dans l'architecture, c'est où on met les toilettes quand il y a des toilettes. Parce que, je veux dire, au XVIIe siècle, il n'y a pas de toilettes. C'est tout
mais
jeté.
En
fait, il est à la fois très libre s'il est en dialogue immédiat avec le prince, et un prince tout puissant, qui peut aussi lui couper le cou, ou alors il est totalement contraint par le tissu des normes.
Mais alors il y a l'architecte, il y a aussi l'ingénieur. De quand date cette collaboration et est-ce qu'elle se passe toujours bien ?
Ou c'est pas une collaboration ?
C'est pas une collaboration.
Au départ, c'est une rivalité.
C'est une rivalité.
C'est à la fin du XVIIIe siècle, mais ça va de pair avec le développement de la science des matériaux, avec le développement de la géométrie descriptive. Ça va de pair avec des développements scientifiques et effectivement, et aussi avec une demande sociale importante en matière de ponts. En matière de route, en matière de défense nationale, c'est la création des écoles d'ingénieurs. Donc il y a tout de suite une rivalité de l'ingénieur et de l'architecte.
Et l'école d'architecture, ça date de quand ?
C'est l'Académie d'architecture. L'Académie d'architecture, elle est créée par Colbert, mais pas du tout pour faire de la beauté. C'est pour contrôler les coûts des travaux de Louis XIV, parce que les entrepreneurs s'en donnent à cœur joie. Et dans tous les traités d'architecture du XVIIe, XVIIIe siècle, une des grandes parties, c'est le contrôle des devis, le contrôle des gens qui trichent, le contrôle des ouvriers qui ne font pas leur travail, le contrôle des entrepreneurs qui ne donnent pas les bons matériaux, etc. Bon, il y a très peu d'art au départ. Je veux dire, au XIXe siècle, il va y avoir une rivalité tout le temps entre l'architecte et puis l'ingénieur, parce que il y a les nouveaux matériaux, il y a le fer.
Mais alors, c'est quoi l'architecte qui est le chef de projet, en quelque sorte, et l'ingénieur qui exécute ?
Alors, aujourd'hui, ça serait plutôt l'inverse.
C'est
l'ingénieur qui définit. L'ingénieur définit, disons, les possibilités.
En fonction des matériaux.
Et puis, en fonction des matériaux, en fonction aussi des logiciels pour le calcul des formes.
Non, mais c'était
etc.
déjà le cas, par exemple, si vous parlez beaucoup. Et ça m'a passionné d'architecture gothique. Pour faire tenir quand même ces pierres, il fallait s'y connaître, il fallait
on a les premiers, parce que moi j'ai un peu travaillé sur Notre-Dame, on a quand même l'architecte, la figure apparaît véritablement à ce moment-là, et c'est absolument magnifique de voir comment ils sont reconnus dans leur savoir, a des 2-3 personnalités qui vont
dégager. Mais c'est parce qu'à l'époque, et là ça doit vous plaire particulièrement. Il n'y a pas encore la dissociation de l'architecte et de l'ingénieur, parce qu'il n'y a pas vraiment d'ingénieur, sauf dans le domaine de la marine et dans le domaine militaire. Je veux dire, il ne faut pas oublier qu'il y a des architectes de la marine et des architectes militaires. Mais à ce moment-là, il n'y a pas encore cette dissociation. En revanche, au XIXe siècle, elle devient passionnante, parce que vous avez l'architecte qui recopie des modèles, et c'est ce qu'on appelle l'architecture beaux-arts, et puis vous avez les ingénieurs, et les deux grands ingénieurs dont je parle à un moment, c'est Eiffel et baron Genet, l'inventeur du gratte-ciel, et ce sont vraiment des génies, mais qui ne se considèrent pas comme des architectes, qui se considèrent comme des grands ingénieurs. Et il faut vraiment qu'on pousse Eiffel dans ses retranchements pour qu'il dise...
Vous donnez très envie d'aller lire les textes de Eiffel, parce que vous
c'est
dites
magnifique.
Que... Et ouais, vous donnez vraiment très très envie.
Oui, c'est ça, exactement. Et le devis de la tour Eiffel, en 200 pages, c'est une merveille technique. Ouais. Et en même temps, vous avez plein de problèmes techniques aussi pour les usines, pour les silos, pour les ponts. J'ai beaucoup étudié, à cause de Michael Baxandall, j'ai beaucoup étudié le problème de la construction des ponts de chemin de fer au XIXe siècle, parce qu'il y avait un énorme problème technique, c'est de faire passer des trains chargés avec des vents latéraux de la mer du Nord qui faisaient que les ponts tombaient régulièrement. À notre époque, on a le pont de Foster, il y a les ponts de Maillard, mais les ponts de Foster, Millau, c'est une merveille.
Yvan Christ, alors lui c'est pas les ponts, hein, c'est un spécialiste de l'histoire architecturale et c'est une archivina de chefs-d'œuvre en péril.
À Notre-Dame, avant de commencer les travaux, Viollet-le-Duc avec son ami Lassus, son collaborateur Lassus, qui est mort du reste en cours de travaux, a fait une déclaration tout à fait remarquable. Je vais vous la citer, mais exactement. Il avait dit « Nous pensons que chaque partie ajoutée, à quelque époque que ce soit, doit en principe être conservée, consolidé et restauré dans le style qui lui est propre, ils ajoutaient, et cela avec une religieuse discrétion, avec une abnégation complète de toute opinion personnelle. C'est une phrase admirable. Si véritablement Viollet-le-Duc avait suivi une telle déclaration, bien personne aujourd'hui personne ne le critiquerait, personne ne l'attaquerait, moi et moi encore moins.
Et vous pensez qu'il a fait le contraire ?
Il a fait exactement le contraire. Il a fait exactement le contraire. Au nom du scientisme de son siècle, au nom de son scientisme propre, de son archéologisme, si je puis dire, il a refait, ajouté, il a surtout à la croisée du transept, à l'entrée de la nef, à l'entrée du chœur et du transept, il a reconstitué les ouvertures, les petits oculi qui existaient au XIIe siècle et qui avaient été supprimés 100 ans plus tard. Donc, il a voulu reconstituer un État qui n'existait plus déjà depuis le Moyen-Âge. C'est une erreur totale, c'est une erreur absolue. L'extérieur, il a surchargé tous les arcs-boutants, toutes les culées des arcs-boutants, tous les contreforts des arcs-boutants de petits édicules. Avait-il existé ? On n'en sait absolument rien. Il a, au-dessus de chacune des fenêtres des chapelles, il ajoutait des gables, il ajoutait des fleurons, il ajoutait des contreforts. Ils n'existaient plus, même s'ils avaient existé. Était-il besoin de les refaire ? Absolument pas. Du côté de la Seine, la grande rose, la très belle rose du croisillon sud du transept, il l'a complètement refaite. Il a fait pivoter de je ne sais plus combien de degrés. Elle n'est plus exactement telle qu'elle était avant son passage. Alors Notre-Dame, évidemment, ne disons pas que Notre-Dame lui doit la vie à Viollet-le-Duc. Elle avait, comme je vous l'ai dit, toujours été entretenue depuis la Révolution. Mais Notre-Dame existe, mais ce n'est plus Notre-Dame telle qu'on l'avait vue, telle qu'elle avait existé.
J'ai cru voir à vos expressions que vous n'êtes pas toujours d'accord avec ce que vient de dire Yvan Christ. Yves Michaud.
Ah, moi, je ne suis pas du tout d'accord, parce que d'abord, on parle beaucoup de Viollet-le-Duc, mais on ne l'a pas lu.
Ouais, alors,
moi, un de mes plaisirs,
moi aussi.
un de mes bonheurs de faire en faisant mon livre, ça a été de lire tout Viollet-le-Duc. Et il y en a beaucoup, je peux vous dire. Et par exemple, je conseille, si vous, les auditeurs veulent se procurer un livre merveilleux, c'est l'histoire d'une maison, justement. Ouais. Il a écrit en 1874 pour les enfants. L'histoire d'une maison, c'est une merveille absolument.
Mais
effectivement, d'abord, ce qui était très juste, c'est que effectivement, on doit respecter le monument, mais aussi dans son évolution. Mais alors, à ce moment-là, comment peser, si vous voulez, les ajouts, les changements, les retours en arrière, en plus en ajoutant, parce que Yvan Christ, là, exagère un peu, qu'on a la plupart du temps très peu de documents sur l'état initial. Je veux dire, les archives, c'est quelque chose qui arrive au XIXe siècle, les archives, je veux dire. On a très peu de choses. Une chose que je dis dans mon livre, qui au passage, mais ça vaut le dire, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de plan avant le XVe siècle, parce qu'il n'y a pas de papier. Avant l'invention de l'imprimerie, il y a des maquettes. Et les maquettes, on ne les a plus. Et pratiquement toutes les constructions se font sur des maquettes, et quelquefois des maquettes à très grande échelle. Mais on n'a pas de papier. Hein, je veux dire, on va avoir du, on a des parchemins, mais on peut pas les gratter indéfiniment, et on peut pas superposer des calques. Le calque, il arrive au XVIIIe siècle, pas avant, début du XIXe siècle, le calque. Et donc, aller dire, il y a un état initial de Notre-Dame avec des temps de construction qui s'étaient sur un ou deux siècles, c'est une bonne blague.
Oui, je me permets de renvoyer les auditeurs, parce que j'ai beaucoup travaillé tous ces textes, parce que j'ai participé au hors-série que Le Figaro a consacré à Notre-Dame, et on m'avait chargé précisément des projets architecturaux concernant la flèche, si elle avait dû être remplacée. Et à la faveur de cela, j'ai lu donc énormément de textes, effectivement, moi peut-être pas la totalité, mais bon nombre de textes. Et ce qu'il y a quand même d'admirable chez Viollet-le-Duc, c'est qu'il y a le souci de retrouver peut-être moins la lettre que l'esprit, et il reste Exactement. Fidèle à l'esprit, et je crois que c'est plutôt ça qui doit être la pierre de touche, c'est toujours savoir s'il y a trahison ou pas. Et là, en l'occurrence, la personne qui est intervenue, Yvan Christ, exagère. C'est que lui-même a appliqué ce qu'il citait de Lassus, c'est que il avait le souci de ne rien ajouter. Alors peut-être qu'il a ajouté quelque peu, mais son principe était de s'effacer et de considérer Exactement. Quand même devant les grandes choses qu'il fallait essayer de retrouver. Et vraiment, c'est pourquoi je cite énormément de phrases dans ce texte, mais je renvoie les auditeurs au texte de Viollet-le-Duc, le procès qui lui est intenté est tout à fait injuste.
Et l'esprit de Notre-Dame, en un mot, Yves Michaud, il est là, vous y êtes retourné?
Je pense que oui, il l'avait respecté.
Non, mais vous, là, maintenant que, après l'incendie. Oh, est-ce que vous êtes allé voir?
Non, je suis pas allé voir. Pas encore. Pas en France là, ces temps-ci.
Très difficile actuellement parce qu'il y a encore trop de monde pour que l'on puisse vraiment quand même apprécier les choses.
Un des problèmes effectivement aussi de ces sanctuaires, c'est que ça devient maintenant des boîtes à touristes.
Épouvantable.
Et donc on change complètement. C'est une dimension fondamentale de l'architecture aujourd'hui, aussi bien pour sa destruction, c'est-à-dire l'usure touristique, la transformation.
L'usure touristique, et puis j'ai envie de vous parler aussi de la destruction des guerres. Parce que quand vous voyez des villes détruites,
bien sûr,
la destruction des guerres,
mais l'usure touristique, elle est parce que c'est une usure la fréquentation, mais c'est aussi une usure par toutes les demandes qu'il y a, des toilettes, des guichets,
des contrôles techniques. Parce que là, actuellement, il y a tout un tas de produits qui sont vendus, de produits dérivés au sein même de l'Église.
Vous écoutez L'Heure Philo et vous êtes bien sur France Inter et vous l'aurez deviné, nous parlons d'architecture. Lola Young. Can you come around? Fuck me nice. Pull my hair. Sing me lullabies. And we can pretend that we're in love. When you come. We'll be right back. Bérénice Levé et Yves Michaud, on a parlé du temps qui est indissociable de l'architecture, mais il y a aussi l'espace. Et c'est la substance la plus pure et la plus irréductible de l'architecture, l'espace.
Yves Michaud. Ben oui, parce que de toute manière, il y a toujours une contrainte d'espace. Il faut déjà choisir l'endroit, hein, que ce soit en termes, par exemple, le long d'une rivière, avec un pont, mais un pont qui ne permet pas l'invasion, etc. Il y a déjà cet espace. Ensuite, il y a l'espace foncier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on, les contraintes de l'espace foncier, les droits des voisins. J'insiste beaucoup sur le coutumier de Paris, par exemple, qui était le règlement d'urbanisme. Aujourd'hui, le code de l'urbanisme ou de la construction doit faire 2500 pages, hein, je veux dire. Donc c'est, déjà, ça pèse sur l'espace. Et puis ensuite, effectivement, plus on se met à l'époque, on s'approche de l'époque moderne, plus on est dans une conception de l'espace géométrique et de l'espace neutre qui serait travaillé en quelque sorte comme un sculpteur de travail.
Alors vous citez Georges Perec, l'espace de notre vie n'est ni continu, ni infini, ni homogène, ni isotrope. Il n'y a pas un espace, un bel espace autour de nous. Il y a plein de petits bouts d'espace.
C'est exactement la même chose aussi que ce que disait Julien Gracq. Je veux dire, c'est un retour à toutes les facettes de l'espace. Et effectivement, l'espace est symbolique, l'espace il peut être terrifiant, l'espace il peut être dangereux, l'espace il peut être ouvert à l'agression ou agressif. Je veux dire, quand vous construisez un château fort, je veux dire, c'est une indication sur une connotation forte de l'espace. Donc, à la fois, je veux dire, il y a eu toute une grande période du XXe siècle où on a vu et voulu penser l'espace de manière abstraite et géométrique. Et ça recommence un peu aujourd'hui, compte tenu du fait que l'espace des villes est à peu près immaîtrisable. Donc, d'une certaine manière, si on y arrive, on peut mettre à peu près n'importe quoi, n'importe où. Hein, c'est le thème de Koulas, c'est que le contexte aille se faire foutre.
Parce qu'on ne sait pas comment on va façonner la ville de demain, parce qu'on ne sait pas comment les gens vont y vivre.
Alors ça, on ne peut pas le savoir, mais en revanche, ce que je note, c'est que souvent, le geste architectural façonne l'espace du contexte.
Mmh. Oui, mais comment les gens vont y vivre? Mais c'est aussi la façon dont l'espace est façonné qui va influer sur la manière d'habiter précisément. Là, je ne voudrais pas entrer dans des polémiques, mais moi, je vis à la Butte aux Cagnes. Je peux vous dire que tout le quartier est mis sens dessus dessous parce qu'il a été décidé tout à fait arbitrairement par la mairie de Paris, la végétalisation et encore des stations et des stations de Vélib ou de Vélib.
C'est le même cas, je crois, par exemple pour Montmartre.
Hein, voilà.
Et la place de Catalogne végétalisée avec des choux-fleurs.
Mais en plus, bon, donc si vous voulez, c'est un thème que je travaillais plus dans mon livre sur l'écologie. Mais ce qui frappe avec tous les maires écologistes qui ont été élus, c'est que ils se comportent à l'endroit des villes comme des rois et qu'il n'y a rien. L'espace de la ville ne les oblige pas. Et ils ont, finalement, que l'on soit à Grenoble, à Lyon, à Paris, on reconfigure les villes exactement de la même façon. Si bien que c'est une façon d'induire certains comportements aussi des populations. Au lieu de se fondre, mais peut-être que alors, c'est peut-être une règle aussi de l'architecture en général. Quand Haussmann rebâtit la ville, il va entraîner une certaine manière d'habiter la ville. Bon, bah là, c'est. Mais oui, il y a quelque chose de très arbitraire aujourd'hui.
Non, mais aujourd'hui, il y a un arbitraire qui est assez incroyable.
À son comble.
Mais c'est parce qu'aussi, sur la ville, les gens ne sont pas du tout clairs.
Vous le dites bien, en plus, il n'y a plus.
La ville nous échappe complètement.
Mais c'est aussi pourquoi
donc,
vous avez écrit ce livre.
N'importe quoi. Exactement.
Parce que vous l'écrivez très bien. C'est que, d'emblée, la profondeur de réflexion s'est en revanche réduite en raison de la nature même du savoir en réalité. Et il est vrai que votre livre vient pour qu'on s'accorde le temps de la réflexion, une réflexion.
Moi, je veux redonner de l'épaisseur, si vous voulez, à tous ces concepts.
Voilà.
Je veux dire,
vous dites aussi que les architectes sont devenus des artistes transformistes.
Oui, mais c'est cela.
Oui, mais alors c'est assez, parce que, hormis des gens comme Foster, qui ont véritablement une image technologique forte, mais Guéry nous fait des choses qui changent tout le temps. Et alors, Nouvelle aussi, c'est très difficile de reconnaître un bâtiment de Nouvelle.
Ouais.
Ouais. Mais en tout cas, on continuerait bien, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti est écoulé. Merci beaucoup Yves Michaud. Qu'est-ce que l'architecture ? C'est chez Folio. Bérénice Levé, Penser ce qui nous arrive avec Hannah Arendt, est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci à tous les deux d'avoir été
à vous. Merci à vous.